Radio Okapi. Le journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
Élection hier 3 juin de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2026-2027, le pays entend jouer un rôle actif dans les discussions relatives aux défis sécuritaires en Afrique tout en soutenant les efforts de réforme du système multilatéral. Dans ce journal, vous suivrez les propos de Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères. Le financement de 4 nouveaux projets majeurs en RDC approuvés par la Banque mondiale coûte total 1,49 milliard de dollars américains. C'est pour améliorer l'accès à l'électricité, renforcer la résilience climatique, améliorer la connectivité et promouvoir la gouvernance économique. Christian Bosembe est l'invité de Radio Okapi ce matin. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, va parler de la mesure interdisant toute diffusion ou publication des informations sur les activités de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, basé à Goma au Nord, qui fait la partie du pays sous occupation rebelle. Bonjour à tous. La RDC a été élue hier à New York membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2026-2027. Cette élection marque une nouvelle étape dans l'engagement de la RDC en faveur de la paix, de la sécurité et du multilatéralisme. Le pays entend jouer un rôle actif dans les discussions relatives aux défis sécuritaires en Afrique, tout en soutenant les efforts de réforme du système multilatéral dans un esprit de dialogue, de solidarité et de responsabilité partagée. La RDC n'est pas nouvelle dans cette instance. Elle y a déjà siégé à 2 reprises au cours des mandats des années 82-83 et 90-91. On écoute à ce sujet Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, dans cet extrait choisi par Billy Yvan Lutumba.
Cette élection n'est pas seulement une marque de la confiance de la RDC, c'est aussi le reflet de l'unité de l'Afrique et de sa place légitime dans l'édification de la paix et de la sécurité mondiale. La RDC apporte au Conseil non seulement son expérience nationale, mais aussi la voix d'un continent qui continue de porter l'attention, les coûts des conflits qu'il n'a pas provoqués et dont les contributions à la paix sont trop souvent négligées. La RDC est prête à servir avec des objectifs clairs, une fidélité au principe et un engagement envers des solutions partagées. La situation de l'Est de la RDC est au centre des préoccupations du gouvernement congolais parce que c'est notre peuple qui en est victime. Mais en même temps, nous devons reconnaître le fait que nous sommes ici en tant que pays qui a reçu le vote de confiance de l'Union africaine. Nous viendrons très certainement au Conseil de sécurité avec l'expérience d'un pays qui sait ce que c'est qu'avoir des décennies de conflits, qui a une compréhension approfondie des défis des opérations de maintien de la paix et des questions de protection des civils, de la convergence entre les conflits et les ressources naturelles. Et c'est l'expérience et l'expertise que nous souhaitons apporter à la table, non pas pour servir nos propres intérêts, mais pour servir les intérêts de l'humanité, car nous savons que la situation en RDC n'est pas individuelle ou isolée. We have a lot of crises
around the world. Ici au pays, le porte-parole des forces armées de la RDC, général-major Sylvain Ekenge, dément les rumeurs sur une prétendue traque contre les officiers militaires swahilifones. Il a fait cette précision hier lors d'un briefing de presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Cet officier militaire fait remarquer que ces rumeurs ont été distillées via les réseaux sociaux par les ennemis de la RDC. Général-major Sylvain Ekenga a également précisé que la justice militaire agit conformément aux lois portant statut des militaires en RDC. Ces propos sont recueillis par Blaise Shindani Kambala.
On est en guerre. Il y a certaines circonstances exceptionnelles qui sont appliquées. Il y a des officiers qui sont arrêtés pour des raisons évidentes. Imaginez, en Dolo, il y a des officiers qui ont été condamnés pour avoir détourné 20 000 dollars. Et imaginez quelqu'un qui détourne 200 000 dollars. Imaginez quelqu'un qui détourne 1 million de dollars. Et les gens disent que parce qu'on les arrête parce que ce sont des swahilifones. On les garde longtemps en prison. Non, non, nous sommes en guerre. La procédure en temps de guerre, elle est telle que ça doit être de cette manière-là. On approfondit. On a tous les éléments avant de le déférer à la justice militaire. Les gens disent, on parlait des officiers swahiliphones, mais il n'y a pas que les officiers swahiliphones. Il y a même les officiers d'autres espaces linguistiques. Mais chacun a été arrêté pour une infraction posée individuellement.
Toujours en rapport avec l'Est de la RDC, l'Union européenne exprime sa vive préoccupation face à la situation humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, où plusieurs localités sont encore contrôlées par l'AFC M23. Son ambassadeur en RDC a déclaré hier à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, où il a conduit une mission conjointe de quelques heures avec 9 ambassadeurs européens accrédités à Kinshasa. Objectif, lancer 2 projets financés par l'Union européenne pour renforcer la paix, la résilience et la cohésion sociale en Ituri et au Nord Kivu. Avant de rentrer à Kinshasa, Nicolas Berlanga a insisté sur l'intégration de la dimension humanitaire dans toutes les discussions en cours autour de la paix dans l'Est de la RDC. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Nous sommes très, très, très préoccupés. Nous plaidons toujours en faveur d'introduire les sujets humanitaires et comme priorité dans les négociations de paix en cours. Nous suivons de près la situation humanitaire. Il faut dire aussi qu'avec les retraits des USAID, l'Union européenne a dû faire un effort supplémentaire pour continuer à contribuer, même si ça n'arrive pas à couvrir tous les besoins humanitaires. L'Union européenne a investi plus de 100 millions d'euros actuellement, ces mois-ci, pour essayer de couvrir les besoins humanitaires. Et dans ce sens, nous sommes très attentifs aux discussions, aux dialogues qu'il y a en cours, et toujours avec une perspective pas seulement du moment, mais aussi d'un peu petit de long terme. La ministre des Affaires étrangères congolaise l'a très bien dit, il faut la paix, c'est-à-dire les retraits des forces occupantes, pour après rétablir la confiance et après pouvoir commencer à parler de coopération.
Toujours en rapport la situation dans l'est du pays, de son côté, Médecins sans frontières MSF appelle à une mobilisation urgente pour protéger les civils et répondre à leurs besoins essentiels. Cet appel est contenu dans un rapport rendu public hier et qui revient avec détail sur la situation humanitaire dans la zone. D'après ce rapport, depuis le 15 mai, la zone de Bambo est le théâtre d'une reprise des affrontements violents entre le M23 et les Wazalendo. La localité de Bambo, encerclée par des combats, est devenue un refuge pour des milliers de personnes qui ont fui les combats, les pillages et les villages incendiés, explique MSF. D'après cette organisation internationale, l'hôpital général de Bambo, soutenu par MSF, fait face à un afflux des blessés, principalement des civils, victimes des balles perdues ou d'éclats d'artillerie. François Callas, chef de programme MSF au Nord Kivu, explique.
Nous nous retrouvons avec un afflux massif de populations déplacées provenant des villages alentours qui ont conduit à doubler la population de la ville. On a actuellement plus de 11 000 ménages qui sont arrivés des villages alentours fuyant les combats. La réponse apportée par MSF, elle est de plusieurs niveaux. D'une part, nous faisons une distribution de kits de premier secours avec des nattes, des jerrycans, des produits d'hygiène, des couvertures. Et nous sommes en train de renforcer l'assainissement sur les abris collectifs. Des douches, des latrines et des points d'eau. Et enfin, nous sommes en train d'élargir l'accès aux soins au niveau de l'hôpital et au niveau des centres de santé de Bambou. L'assistance MSF couvre des besoins sanitaires urgents, mais par contre, notre assistance ne répond pas à tous les besoins et notamment aux besoins en aide alimentaire qui est crucial pour ces populations. Et nous attendons d'ailleurs à avoir une augmentation rapide de la malnutrition.
François Callas, chef de programme SF au Nord Kivu, ajoute que l'accès aux populations, leur sécurité ainsi que celle des équipes de MSF sont actuellement un défi quotidien. Le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale approuve le financement de 4 nouveaux projets majeurs en RDC, totalisant plus de 1,49 milliard de dollars américains. Ces initiatives visent à améliorer l'accès à l'électricité, renforcer la résilience climatique, améliorer la connectivité et promouvoir la gouvernance économique. Dans un communiqué de presse publié hier à Kinshasa, Albert Zufak, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, affirme que son institution est profondément engagée à améliorer la qualité de vie des Congolais. Kassam Zati.
Le premier projet est celui de résilience aux inondations urbaines, dont le coût est estimé à 200 millions de dollars. Financé par l'Association internationale pour le développement IDA, ce projet a pour objectif d'améliorer la gestion des risques climatiques et des catastrophes, tout en réduisant les risques d'inondations dans les zones urbaines, notamment à Kinshasa et à Kalemie. Le deuxième est le projet pour la gouvernance, la transparence et la résilience économique, financé à hauteur de 600 millions de dollars. Les initiatives clés incluent le renforcement de la gestion des dépenses publiques, la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption, ainsi que l'amélioration de l'administration judiciaire et du secteur de l'énergie. Ensuite, le projet d'appui à la connectivité et au transport de, avec 440 millions de dollars. Également financé par l'IDA, il vise à relier l'Est et l'Ouest de la RDC par la construction de la première autoroute du pays, améliorant ainsi la connectivité domestique et régionale. Enfin, c'est le programme de développement Inga 3. Le conseil d'administration de la Banque mondiale approuve un crédit de 250 millions de dollars comme première phase de ce projet, dont le budget total est d'1 milliard de dollars. Cette approche multiphase à long terme aidera la RDC à poser les bases du développement durable d'Inga 3 en commençant par des investissements au profit des populations locales, les infrastructures et les emplois, indique le communiqué.
Restons à Kinshasa pour parler de la grogne au sein de l'Office congolais de contrôle. Les agents de cet établissement public ont manifesté hier devant le siège de l'Office à Kinshasa. Motif, ils exigent le départ du comité de gestion actuel. D'après le vice-président de la délégation syndicale nationale de l'OCC, 4 griefs sont mis à charge du comité dirigeant, entre autres la mégestion, le retard de paiement des salaires depuis près de 2 mois, le manque d'accès aux soins appropriés et des frais de fonctionnement dans d'autres entités territoriales. Bertin Kassiama était sur place. Voici son reportage.
Des coups de sifflet accompagnés des chants exigeant le départ du directeur général actuel ont accompagné ces agents de l'OCC face à une porte d'entrée barricadée par les éléments de la police.
Nous exigeons le départ du comité actuel de l'OCC parce qu'à leur avènement, on payait le salaire sans problème, le frais de fonctionnement, allez, sans problème, les retraités étaient payés, les décédés non plus, les décomptes fumés de tous ces gens non plus. Mais nous sommes en train de voir que l'entreprise est en train de sombrer.
Les vice-présidents de la délégation syndicale nationale Abbé Dimon-Anteba revient sur les causes qui ont conduit à cette grève.
Nous sommes en grève aujourd'hui, c'est pour 3 points. Le premier point, c'est celui des paiements en retard des salaires des agents. De deux, il y a l'accès aux soins médicaux de nos agents, de nos agents et cadres de l'OCC. Aujourd'hui, l'agent de l'OCC, il est chassé dans tous les centres hospitaliers du Congo. Troisièmement, il y a le non-envoi de frais de fonctionnement pour que les entités puissent bien fonctionner afin que la production soit boostée. Il y a de ces entités qui font 3 mois sans pourtant avoir les frais de fonctionnement. Et cela, ça aura un impact dans le comportement des agents qui se trouvent dans les frontières.
Ces décisions de grève émanent de l'Assemblée générale tenue samedi 31 mai à Kinshasa.
Le secteur minier ne participe pas significativement au développement des provinces du Tanganyika et du Maniema. Déclaration hier à Kinshasa du secrétaire permanent de l'organisation Congo Peace Center, CPC, à l'occasion de l'ouverture de l'atelier sur la conciliation de l'exploitation minière et le développement économique de ces deux provinces. Pour Blaise Baïsé Bolamba, secrétaire permanent du Congo Peace Center, les participants vont analyser les différentes revendications répétitives des populations, notamment au sujet du non-respect des responsabilités sociétales des entreprises minières, mais aussi à l'absence prolongée de rétrocession du pouvoir central envers les provinces qui n'ont pas d'infrastructures de base, des routes, de l'électricité et de l'eau courante, malgré l'exploitation minière. On l'écoute au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Après consultation sur terrain, après des ateliers, on est arrivé à la conclusion que le secteur minier ne contribue que de manière moins significative au développement des provinces concernées. Et c'est triste de le constater parce que ces provinces sont potentiellement très riches, mais les conditions sociales et économiques de ces provinces sont très déplorables, notamment par le fait que le secteur minier ne participe pas significativement comme attend de la population au développement de ces secteurs. Il n'y a pas d'infrastructure, malheureusement. Si vous allez dans toutes les provinces, il n'y a aucun territoire qui est relié au chef-lieu des provinces. Aucun. Tous les territoires sont coupés des provinces parce qu'il n'y a pas de route. Dans les ETD, territoires où on exploite l'or, les diamants, les cassiterites et tout ce que vous connaissez dont regorge la RDC, il n'y a pas suffisamment ou presque pas des infrastructures sociaux de base en termes d'écoles, hôpitaux, ainsi de suite. Il n'y a pas d'énergie électrique. Il n'y a pas de l'eau courante et donc la situation n'est pas bonne. Et nos populations, bien que affectés par l'exploitation minière, n'en tirent aucun bénéfice, aucun intérêt.
Prennent part à ces assises de 2 jours organisées par Congo Peace Center en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM, les délégués des ministères des Mines, de l'Intérieur ainsi que le haut représentant du chef de l'État au processus de Luanda et de Nairobi. Début hier de l'instruction préjuridictionnelle à charge du ministre de la Justice, Constant Mutamba, au parquet général près la Cour de cassation. Le ministre s'est présenté au parquet accompagné d'une vingtaine d'avocats pour l'assister. Ses nombreux sympathisants et le personnel de son cabinet qui l'accompagnait avec des sifflets ont été empêchés par la police d'accéder au parquet après une résistance. Auditionné par l'avocat général Sylvain Kaluila, assisté du magistrat Christophe Mousseme, Constant Mutamba fait l'objet d'accusations de détournement présumé des 19 millions de dollars destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours de Kisangani et du marché de gré à gré contracté avec l'entreprise Zion Construction chargée de la construction d'une prison dans la même ville. Au Kasaï central, 4 membres du bureau de l'Assemblée provinciale, dont le président visé par des pétitions. Elles sont signées par 14 députés provinciaux qui les accusent entre autres pour incompétence et détournement de l'argent prélevé sur les émoluments des députés provinciaux. Une plénière est annoncée ce mercredi pour débattre de ces pétitions. François Kadima.
Les 14 députés provinciaux ont lancé cette offensive contre 4 membres du bureau déposant des pétitions pour leur déchéance. En cause, une gestion controversée marquée par des accusations d'incompétence et des détournements de fonds, notamment 300 millions de francs congolais prélevés sur les salaires des députés sous prétexte de l'effort de guerre. Également dans ces pétitions, le président Daniel Lukusa est critiqué pour la révocation massive d'agents de la Direction générale de recettes provinciales de GERCAC, tandis que son vice-président Papi Noël Kankou est accusé de négligence et d'avoir alimenté un climat de tension politique. Le rapporteur lui est pointé du doigt pour son langage jugé irrespectueux envers ses collègues députés et les questeurs pour sa mauvaise gestion financière. Cette crise survient après l'invalidation de 2 députés UDPS qui figurent parmi les initiateurs des pétitions. Alors que ces crises se multiplient, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait rappelé que ces tensions fragilisent l'unité et la stabilité des provinces, entravant leur développement. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, au moins 5 détenus sont décédés. 29 autres personnes ont été blessées, dont 6 agents pénitentiaires. Un affrontement a éclaté hier entre les forces de l'ordre et les prisonniers dans la maison pénale de Boaké, selon un communiqué du parquet. D'après le procureur de la République de Boaké, les gardiens effectuaient une fouille de routine dans les cellules quand ils ont été attaqués par des détenus armés de gourdins et des machettes. La gendarmerie et la police nationale sont intervenus pour rétablir l'ordre. Pour rappel, en avril dernier, 12 détenus avaient été blessés lors d'un incident similaire au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Un détenu était par ailleurs décédé lors d'une tentative d'évasion massive encore à la prison de Boaké.
L'invité.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, interdit toute diffusion ou publication des informations sur les activités de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, basé à Goma, au Nord Kivu, la partie du pays sous occupation rebelle. Dans un entretien accordé hier à Radio Okapi, Christian Bossembe parle d'une mesure conservatoire. Il promet cependant des sanctions sévères aux réfractaires de cette mesure. Christian Bossembe est ce matin l'invité de Radio Okapi. Il est au téléphone avec Blaise.
Bonjour Président Christian.
Bonjour.
Vous venez de prendre une décision selon laquelle il est interdit à tout média de diffuser ou de parler des activités de l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Quelles sont les raisons de cette mesure?
Notre mesure porte sur 2 axes. Le premier élément, c'est d'abord le fait qu'il y a une décision du gouvernement. Cette décision du gouvernement est très bien claire sur la question du PPRD. Le parti a été suspendu. Et du moment où un parti est suspendu, pour des motifs que tout le monde connaît, nous ne voyons pas l'opportunité de laisser ce parti continuer à émettre son point de vue, à faire de la propagande et à transformer le plateau en des tribunes, je veux dire, de manipulation et de subversion. Donc il était question pour nous, de façon logique, de mettre terme à cela. Et encore une fois, ce n'est pas une décision, c'est une mesure conservatoire. Deuxième élément, c'est l'interdiction de l'autorité morale de ce parti-là, qui a été identifié par les services compétents comme l'auteur moral de cette rébellion. Alors, il fallait trouver une solution pour ça. Depuis un certain temps, les faits sont là. Les partisans, ces partis ont transformé l'espace médiatique en un lieu de propagande et de légitimation des crimes, de légitimation de l'horreur et de la désolation. Alors, au-delà de tout, nous estimons que c'est une distraction. Le peuple congolais a besoin d'unité, de la cohésion nationale, et on ne permettra pas qu'un groupe d'individus prenne en otage tout un peuple. Voilà pourquoi nous avons pris des mesures conservatoires, interdisant la diffusion, le relais de ces propos, de ces interviews, de ces actions.
Que répondez-vous, Président, à ceux qui estiment que cette décision ou cette mesure viole la Constitution qui garantit les droits à l'information et la liberté d'expression?
La Constitution, c'est le livre de tout le monde. C'est un livre énonciateur de principes républicains. Mais elle-même, la Constitution, fixe les limites de chaque chose. Le droit à l'information, ça ne veut pas dire le droit de propager de la fausse information ou le droit de manipuler. La liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. Ça ne veut pas dire la prime à la délinquance. Ça ne veut pas dire que l'on va autoriser les discours de haine. On va laisser passer les incitations à la désobéissance civile, les incitations à l'insurrection ou même la légitimation des crimes. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas accorder.
Alors pourquoi vous ne formalisez pas cette mesure dans une décision?
Elle est formelle déjà. C'est une mesure qui est déjà publiée. Elle est déjà dans les réseaux sociaux, elle est dans notre site, tout ça. Le problème, c'est que pour avoir une mesure définitive, c'est-à-dire une décision, on va recourir à la plénière. Et la plénière aura lieu jeudi et nous soumettrons la question à la plénière qui l'approuvera ou non. Et une fois que la décision sera approuvée, elle sera rendue publique. Mais c'est déjà les effets de la mesure commencent à courir de maintenant.
Y a-t-il des sanctions à la contre des contrevenants?
La sanction ou les sanctions peuvent aller de la suspension simple à la suppression ou au retrait de signal ou de la fréquence.
Président Christian Bossembe, nous vous disons merci.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi, un journal mis en onde par Mimi Kindou sous la coordination et la supervision de Jude Mister Bilanda.